Alors bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter Jean-François Chassé. Ben, en fait, je ne le présente pas vraiment parce que la plupart d'entre vous le connaissent. Comme a dit Pierre, je repasse rapidement dans son parcours. Alors, il est professeur à l'UQAM et cumule plusieurs spécialisations. Bon, on peut parler de la littérature québécoise, donc entre autres publications. Il a publié L'ambiguïté américaine, le roman québécois face aux États-Unis en 1995. Il est également spécialiste de la littérature américaine. Il a publié plusieurs essais sur ce sujet. J'en nomme un, Fil, ligne, réseau, essai sur la littérature américaine, publié en 1999. Il est aussi, et c'est notamment sa raison d'être avec nous au Christ, spécialiste de la littérature et de la société, des liens entre les deux. Alors, il a travaillé beaucoup sur les liens entre la ville et la littérature, bon, notamment. Il a participé à la fondation et collaboré au collectif Montréal Imaginaire et a publié également un essai intitulé Dérive de la faim, sciences, corps et villes en 2008. Il y a d'autres publications aussi. Et enfin, il a un intérêt particulier pour le discours scientifique dans la fiction. Alors, il a fait sa thèse sur la vie mode d'emploi de Pérec. Il a été directeur du groupe de recherche Machine Texte et Savoir, et il vient tout
MTS.
juste, MTS, oui, et il vient tout juste de faire paraître chez Seuil un ouvrage intitulé « Si la science m'était comptée, des savants en littérature ». Il est aussi romancier, il a publié 5 romans jusqu'à ce jour, « Obsèques » en 1991, « Les ponts, histoire d'une famille » en 1995, « L'angle mort » paru en 2002, « Les taches solaires » en 2006 et son cinquième et dernier roman, « Laisse, une fantaisie pleine de chiens, de bruits et de fureurs » en 2007. Il nous présente aujourd'hui une conférence sur ce lien entre discours scientifique dans la fiction. Cette conférence est intitulée « Insémination artificielle du gène en littérature ».
Merci. Alors, ça me fait bien plaisir d'être ici ce soir pour ouvrir la deuxième saison du Centre. J'espère être suffisamment intéressant pour ne pas provoquer chez vous à la fin de l'heure des fantasmes de crucifixion. C'est toujours un risque avec l'acronyme de notre Centre. Je vais vous parler de littérature, bien sûr, mais comme je veux parler de la génétique à travers la littérature, je vais d'abord, dans un premier temps, faire une mise au point, montrer comment je situe le discours scientifique par rapport au texte littéraire et comment l'imaginaire scientifique trouve sa place dans la fiction et en quoi il y a là, pour moi, bien sûr, un rapport évident avec la sociocritique dans la manière dont je l'envisage. Alors, faisant cela dans cette première partie, je vais quand même butiner un peu du côté de la littérature. Donc, ça sera pour les 20 ou 25 premières minutes. Et par la suite, je vais terminer en donnant de manière beaucoup trop schématique des amorces d'analyse tirées de 3 romans. Parce qu'il a été le plus difficile pour moi, ce n'est pas de préparer cette conférence, mais c'est de couper dans cette conférence, parce que j'en avais au moins 2 fois trop. Alors, comme j'ai l'esprit de contradiction, qui n'en a pas été question, je vais parler de littérature anglaise. Puisque les écrivains anglais semblent s'intéresser beaucoup à la génétique ces années-ci. Mais donc, d'abord, vous dire que ce que je vous présente ce soir se situe dans le cadre d'un projet, un nouveau projet, mais dans la suite de mes travaux précédents, qui s'intitule « L'archéologie de l'infiniment petit, l'atome et le gène dans la fiction littéraire et le discours social ». Donc, il s'agit d'étudier les effets discursifs et fictionnels des sciences à travers ces 2 figures particulières que sont le gène et l'atome. Je pars d'un principe qui semble aller de soi, mais dont on ne voit pas toujours les implications, c'est que les sciences font partie de la culture. Ce qui signifie que les enjeux qui les concernent débordent évidemment des murs des laboratoires et irriguent l'ensemble du discours social, mais aussi qu'au-delà de leur réalisation, les sciences provoquent des effets imaginaires qui nourrissent les fictions. Donc, les ponts entre science et fiction sont au cœur de cette recherche. Autre affirmation de départ, la littérature, pour moi, est une forme de savoir, une forme de savoir transversal, si on veut. Et ce projet pourrait succinctement s'énoncer sous forme de deux vastes questions. Comment la physique fait-elle penser la littérature? Comment la biologie fait-elle penser la littérature? Je vous présente des travaux, une partie du travail sur le gène ce soir, parce que j'ai déjà commencé à travailler un peu sur l'atome, notamment à travers un séminaire sur l'imaginaire de la bombe nucléaire. Donc, je vais vous présenter quelque chose de neuf. Évidemment, l'atome et le gène ont plusieurs points communs dans l'esprit de ce travail. Je ne vais pas les développer ici, mais à tout le moins, je peux dire que dans les deux cas, il y a toute une constellation, un vaste champ sémantique qui les concerne. Dans le cas du gène, on pense à des mots comme cellule, ADN, hérédité, filiation, évolution, eugénisme, racisme, virus, mutation, mutant, clone, hybridation. Autant de mots qui nouent inextricablement vie et mort. Alors, en mettant en scène, en démontant, en déconstruisant, en exaspérant, je dirais, certaines images propres aux sciences contemporaines et inscrites dans le discours social, la littérature polarise les effets culturels de la science et à partir de là, on peut réfléchir à ces questions, tenter d'y répondre, se demander, par exemple, quels sont les effets fantasmatiques que peut avoir la loi scientifique, hein, ce discours d'autorité quand la fiction l'investit. Quelles sont les différentes modalités d'application et de narrativisation de ces lois, de ces règles, de ces contraintes, de ces formalismes particuliers? Comment les codes sémiotiques de la pratique scientifique sont-ils traités dans les textes? Alors, si bien sûr il est impossible de penser une figure comme celle du gène sans la lier au discours scientifique, je ne suis pas intéressé à traiter uniquement de fiction entièrement alimentée par la science, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir également en quoi et comment une telle figure échappe parfois aux sciences, apparaît comme une sorte de dérive à partir des sciences et s'inscrit dans un cadre narratif qui en traite peu, ou du moins qui semble traiter peu, des sciences. Autrement dit, il s'agit aussi de voir, de façon plus générale, comment le gène prend également une valeur métaphorique où la science ne se dessine qu'en creux. Alors, je viens d'utiliser le terme métaphorique. Vous savez que rapprocher science et littérature, ça peut être dangereux. Il y a eu de nombreux débats dans les dernières années là-dessus. Je vais prendre les débats de front. En parlant un peu de ça, le généticien Richard Lewontin, qui a écrit un livre traduit en français sous le titre « La triple hélice », écrivait « Il n'est pas possible de faire de la science sans utiliser un langage empli de métaphores, mais le prix à payer est une éternelle vigilance ». Et en effet, ça me permet de revenir sur un de mes sujets préférés, sur lequel je vais passer très vite parce que j'en ai parlé justement à l'atelier mécanique l'an dernier, mais quand même, problème qui est, sujet qui est le problème du langage face aux sciences depuis une bonne centaine d'années. On a beaucoup accusé des philosophes et des théoriciens de la littérature d'utiliser des métaphores scientifiques n'importe comment, avec raison dans certains cas. Mais je rappelle quand même que des expressions comme « théorie des catastrophes »,« effet papillon »,« principe d'incertitude » ou « Big Bang » qui n'ont aucun sens par rapport aux réalités visées par la science, et là je ne prends que quelques exemples, ne viennent pas de philosophes postmodernes, mais de scientifiques bel et bien patentés. Alors mon objectif ici, c'est pas de stigmatiser les scientifiques et faire à l'envers le travail, à mon avis, un peu juvénile qu'on fait socalibriquement, mais d'élargir le débat en disant que manifestement, face à la science moderne, il existe une crise du langage. On a du mal à trouver les mots pour parler de ce que la science nous présente du monde actuel. Or, la fiction, par son travail autoréflexif, peut être un des moyens parmi d'autres, bien sûr, de réfléchir sur cette crise du langage qui peut avoir des effets pervers. Il n'y a qu'à penser à la façon dont on utilise de manière délirante le mot « clone » ou « clonage » actuellement pour se rendre compte des dangers d'une utilisation intempestive de certains mots. Et d'ailleurs, je m'appuie sur un scientifique que j'ai lu cet été, Jean-Claude Amundsen, « La sculpture du vivant », livre que je vous recommande fortement, qui tient des propos pas très éloignés des miens. Lui qui parle justement dans ce livre du suicide cellulaire et qui écrit ceci: le déploiement d'un langage scientifique riche de résonances anthropomorphiques, suicide cellulaire, mort programmée, décision de vivre ou de mourir, contrôle social de la vie et de la mort, traduit l'existence d'une difficulté profonde à appréhender la nature réelle de ces phénomènes. La fascination exercée par ces nouveaux concepts et la richesse de leur application médicale possible ont eu pour effet à la fois de focaliser et de figer la réflexion. Autrement dit, il me semble que c'est important de le préciser quand on est un littéraire qui s'intéresse aux liens discursifs entre science et littérature. La métaphore, l'analogie peuvent être féconds et riches pour qui les prend pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des outils de questionnement, mais peuvent aussi être dangereux si le désir de comprendre s'efface devant l'envie de transposer brutalement ce qui a été pensé dans un champ de recherche très différent. Et puis ça ne concerne pas évidemment uniquement la littérature ou la philosophie, il n'y a qu'à penser historiquement remonter un peu en arrière au darwinisme social, hein, qui est une aberration par rapport aux théories de Darwin. Pauvre lui, Darwin qui était antiraciste, anticolonialiste, anti-esclavagiste, c'est quand même dur de lui faire ça. Ou encore ce qui est beaucoup moins grave, ce qui est même assez comique, Régis Debré tentant d'expliquer la politique occidentale à travers le théorème de Gödel en mathématiques. Bon. En ce sens-là, Lewontin a raison de dire que l'important est bien d'être vigilant. Alors, je ne veux pas rabattre un type de discours sur un autre. Et va de soi qu'en fiction littéraire et texte scientifique, il existe un gouffre important. L'objectif ne consiste pas pour moi à confondre, comme s'il relevait d'un discours similaire, texte fictionnel et texte scientifique, mais en gardant en tête cependant qu'on parle dans les deux cas de discours et qu'il n'est pas interdit d'entendre parfois des résonances entre l'un et l'autre avec toutes les dérives, les aberrations, les hyperbolisations et les fantasmes possibles. Il serait peut-être ridicule de voir du même dans ces différents textes, mais pour moi, il importe davantage de les mettre en relation à travers différents discours de médiation qui permettent de les lier. Discours de médiation comme par exemple la vulgarisation scientifique, le discours éthique, le discours politique, sociologique, le discours religieux ou même le discours apocalyptique, quand on pense au discours autour des cellules souches sous l'air Bush. Alors, ces nombreux discours font écran à la pratique scientifique, mais d'une certaine façon servent le texte de fiction. Autrement dit, le discours sur le gène et la tombe, pour moi, n'est pas directement réversible, transférable dans la fiction, mais tout dispositif sémiotique peut être l'occasion d'une mise à l'épreuve du scientifique qui sert la fiction ici sous différents modes. En tout cas, vous voyez bien, j'espère, dans ma perspective, qu'il importe de ne pas séparer texte et hors-texte. Cette recherche propose, en fait, de s'intéresser à la socialité des textes de fiction dans leur rapport au discours scientifique, donc à un discours culturel qui a un statut particulier. À cause de sa sémiotique qui impose souvent le chiffre plutôt que la lettre, dans certaines sciences, en particulier, bien sûr, les mathématiques et les physiques, à cause de sa grande spécialisation, qui donne l'impression, qui est partiellement vraie, mais aussi partiellement fausse, d'un discours qui serait fortement ou presque exclusivement monologique et qui s'intégrerait peu ou mal à l'ensemble du discours social, très souvent, les sciences dures ne sont pas perçues comme étant à l'extérieur du champ de la culture, ce qui est une illusion assez dangereuse. Alors, ce n'est pas, bien sûr, du point de vue des sciences que ces questions m'intéressent, puisque ce n'est pas ma spécialité, mais bien du point de vue du texte littéraire. Autrement dit, il s'agit moins de se demander si la science, telle qu'elle se développe dans les laboratoires, se trouve fidèlement reproduite dans les textes, mais plutôt de se demander ce que les textes nous révèlent de l'atome ou du gène. En quoi, d'une part, la fiction rend compte d'une prégnance de l'atome et du gène dans l'imaginaire social, et d'autre part, quelles sont les dérives, les mutations, pour utiliser un mot qui revient souvent dans les textes littéraires, qu'on fait subir à la réalité scientifique. Alors, ça nécessite une connaissance minimale dans ce cas-ci de l'histoire de la génétique, mais aussi de la manière dont le discours social reproduit, modifie, politise la question du gène et comment le texte littéraire cristallise les débats, les subjectivise souvent, en propose une anamorphose. Puisque je vais parler de littérature contemporaine surtout, je voudrais rappeler qu'il y a des discours, des événements contemporains qui ont eu un effet en ce qui concerne les débats autour du gène. Bon, par exemple, c'est évident, il me semble que la pléthore de textes souvent passionnés, contradictoires qu'il y a eu autour de Dolly, je parle de la brebis, hein, pas de Dolly Parton, qui est un autre cas génétique particulier. Bon, que la pléthore de textes qu'il y a eu autour de Dolly, la brebis, a joué un rôle dans la multiplication des fictions autour des cyborgs, du clonage, des souris transgéniques, etc., qui sont multipliées dans la fiction. Et le succès imaginaire, je dirais, provoqué par Dolly, tient aussi à la simplicité apparente du clonage. Alors, je pense que c'est un élément important, c'est-à-dire que le clonage qui n'est pas simple du tout, c'est quelque chose qui s'énonce très, très facilement. Hein, pour cloner un organisme, je vous le dis en deux minutes, c'est fou comme ça a l'air simple, pour cloner un organisme, que ce soit une brebis ou Adolf Hitler, les scientifiques font la chose suivante. D'abord, ils prélèvent un ovule, qui est, je le rappelle toujours, un mot masculin, alors que couille est féminin, la langue française nous étonnera toujours. Donc, on prélève un ovule, on en retire le noyau, c'est-à-dire la partie qui contient l'essentiel de l'ADN, première étape. Ensuite, on retire son noyau à une cellule provenant de l'individu qui doit être cloné, on l'insère dans l'ovule, troisième étape. L'ovule reconstitué est ensuite stimulé, chimiquement ou électriquement, pour la contraindre à se comporter comme un ovule fécondé. Et si l'opération réussit, l'ovule se divise, devient embryon, est transplanté dans l'utérus de la mère de substitution, et tout bébé humain ou d'une espèce animale quelconque qui est conçu de cette façon va être le jumeau génétique du donneur de la cellule originelle. Alors, ça s'énonce très facilement, c'est très simple, et on voit comment, à partir de là, les écrivains peuvent fantasmer là-dessus. Donc, il y a eu un développement massif des fictions autour de la génétique, du clonage, etc., depuis quelques années. Je pense qu'il y a deux dates qui sont très importantes. Donc, Dolly, dont on a commencé, qui a été cloné en 96, mais dont on a commencé à parler en 97, parce qu'on l'avait caché au départ, sachant que ça risquait de provoquer beaucoup de débats. L'autre date importante, ben, c'est bien sûr le 27 décembre 2002, hein, c'est l'inénarrable Raël et la compagnie Clonaid, qui a annoncé avoir cloné un bébé humain sans aucune preuve, et tous les journalistes se sont jetés là-dessus avec une joie féroce. On peut se poser quelques questions éthiques, c'est pas le temps d'en débattre ici. Je rappelle, parce que c'est toujours drôle de rappeler, que Raël s'appelle en réalité Claude Vorillon, qu'il était au départ journaliste sportif de la presse automobile et qu'il aurait rencontré des extraterrestres en 1973, les Elohim, à Clermont-Ferrand. Bon. Alors, j'ai jamais mis les pieds à Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si c'est un endroit propice à la rencontre d'extraterrestres, mais comme je n'y suis jamais allé, je vais me permettre de proposer une hypothèse. Il faudrait voir, c'est peut-être la ville de France où il y a le plus de bars au kilomètre carré. Ça pourrait expliquer bien des choses. Bon. Alors évidemment, tout ce qui tourne autour du clonage et qui est très important chez les Raéliens est un mélange tout à fait nouvel âge de religion, de pseudo-religion, de pseudo-science. Hein. Il s'agit entre autres de télécharger le code génétique d'un individu. Je ne sais pas exactement comment on peut faire ça. D'ailleurs, je ne crois pas qu'eux non plus soient au courant. Un truc intéressant quand même, c'est que selon les Raéliens, ça peut nous intéresser à cause de l'acronyme de notre centre, le Christ serait le premier cas de clonage. Hein. La résurrection du Christ, en fait, ce serait un clone. Voilà, qui serait apparu. Donc, Dolly, les Raéliens, 1997-2002, il y a eu une cristallisation des débats autour du clonage et la critique du clonage. Alors, en effet, ça a soulevé toute une série de questions éthiques qui ont été souvent des débats extrêmement intéressants, très développés, très nuancés. Et là, pour des raisons de temps, je vais très schématiquement relever ce qui m'apparaît comme les quatre objections principales au clonage. Première objection, cela porterait atteinte à la dignité humaine et à l'identité individuelle. Deuxième objection, on utiliserait les humains comme des objets. Troisième objection, ce serait antinaturel. Et quatrième objection, ce serait une injustice sociale puisque ça coûte très cher et ça ne profiterait qu'aux riches qui pourraient en profiter. Ou encore aux dictateurs dont les apôtres pourraient ramasser des sommes faramineuses pour les faire renaître. Et c'est vrai que, bon, le soleil apparemment disparaîtrait dans 5 milliards d'années. L'idée de penser que Carl Pelado sera encore là pour 5 milliards d'années, c'est quand même quelque chose d'assez triste. Mais en même temps, il faut bien voir que si la critique se limitait à ce dernier point, sur lequel on revient très très souvent dans les débats, c'est-à-dire l'idée de créer un clone qui pourrait se cloner lui-même, etc. Si c'était la seule critique, ça ne tiendrait pas la route parce que la reproduction et l'identique sur le plan génétique, ça ne garantit pas grand-chose. Hein. C'est quelque chose qu'on a soulevé souvent comme exemple. Le cas des jumeaux identiques, justement, qui sont élevés à la même époque par les mêmes parents, dans le même milieu social, qui vont dans les mêmes écoles, qui parfois sont habillés de la même façon, ont souvent des personnalités extrêmement différentes. Donc, dans le débat sur la génétique, il y a une tendance à tout ramener au tout génétique qui oublie la dimension sociale, environnementale, etc. D'où l'intérêt, d'ailleurs, je mentionne un cas littéraire intéressant, d'où l'intérêt du roman d'Aaron Levin, que vous connaissez peut-être, « The Boys from Brazil », qui date de 1976, qui a été traduit en français, je ne sais pas sous quel titre, et qui justement articule la question environnementale et la question génétique. Alors, c'est l'histoire, je vous résume ça rapidement, c'est l'histoire de Jacob Liebermann, qui s'occupe d'un centre à Vienne, qui s'intéresse aux crimes contre l'humanité perpétrés pendant l'Holocauste. Et en septembre 1974, il reçoit un téléphone qui va lancer une recherche assez singulière, ce qui est un jeune homme qui l'assure avoir retrouvé la trace du docteur Joseph Mengele, qui aurait envoyé 6 nazis à travers le monde pour tuer 94 hommes, très précisément. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certains points communs entre les 94 hommes en question. Et en réalité, ce qu'on va découvrir, c'est que des expériences génétiques ont abouti à la création de 94 clones d'Adolf Hitler, et que les 94 hommes visés donc par les nazis qui doivent être assassinés, sont les pères adoptifs de ces 94 clones. Et l'idée, c'est de les assassiner à l'âge où le vrai Adolf Hitler a lui-même perdu son père. Et donc, l'idée, c'est de recréer toutes les conditions environnementales, sociales, propres à la vie d'Hitler, avec l'objectif qu'au moins un des clones, combinant gènes et contexte sociétal, vers renaître en lui les conditions propices à une renaissance du Führer. Rassurons-nous, le complot va être déjoué et la génétique, heureusement, n'a pas développé toutes ses potentialités. Mais alors, vous voyez en même temps qu'il y a une dérive très souvent dans le discours qui renvoie au tout génétique. On retrouve ça beaucoup dans les romans, ne serait-ce que par les titres. Il y a une foule de romans qui ont des titres du genre « Le gène de la violence »,« Le gène du doute », etc. Mais il y a des dérives aussi chez les scientifiques. Alors, je vous donne un exemple parce que celui-là, je trouve savoureux. C'est l'exemple du gène de Dieu. Alors, c'est Dean Hammer, un scientifique, donc, qui, avec un arsenal théorique tiré de la biologie moléculaire et de la génétique comportementale, a tenté de prouver dans un livre qui s'appelle « Le gène de Dieu »,« God Gene », que la religion est câblée dans nos gènes. Alors, le gène de la croyance spirituelle serait excellent pour la survie du groupe humain dans la mesure où la religion qu'il sous-tendrait aura un effet moral régulateur sur la vie sociale. Je vous cite un passage d'un article de Jean-Marc Clévy-Leblond qui démolit avec allégresse ce livre. Les gènes de Dieu contrôleraient la programmation du lobe temporal de notre cerveau, dont la stimulation induit une sensation de sérénité et d'unité avec l'univers, expliquant ainsi les visions mystiques. Je tiens à préciser que Dean Hammer est le même qui disait avoir trouvé le gène de l'homosexualité, qu'on pourrait sans doute extirper comme toute maladie, n'est-ce pas? Comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. On a envie de lui faire chercher le gène de la connerie en se disant que ça pourrait lui servir. Bon, avant de plonger plus spécifiquement dans les textes, je voudrais rappeler deux ou trois définitions. Vous m'excuserez, c'est peut-être d'évidence, mais c'est pas mauvais de rappeler des évidences pour situer les choses, hein, comme le sait tout prof qui se respecte. Alors, je veux rappeler d'abord que la génétique, bon, c'est la branche de la biologie qui est consacrée à l'étude de l'hérédité et aux variations individuelles entre organismes vivants, on doit beaucoup, pour les travaux sur la génétique, doivent beaucoup aux travaux de Gregor Mendel, hein, qui sont opérés en 1865, mais qui ont été un peu oubliés jusqu'au début du 20e siècle. Que le gène, c'est l'unité du matériel génétique héréditaire qui est constitué par un petit segment d'ADN, et que l'ADN, c'est une molécule, donc la plus petite unité chimique d'un élément ou d'un composé, qui est le constituant majeur des chromosomes et le support d'hérédité. L'ADN a la forme d'une double hélice, c'est la formule qui a été trouvée par Francis Crick et David Watson en 1953, histoire d'ailleurs qui est racontée dans un livre tout à fait passionnant qui est pas loin du suspense à certains moments, par Watson lui-même, un livre qui s'intitule justement « La double hélice ». L'ADN est composé de quatre bases, c'est-à-dire que chaque molécule est composée de quatre entités chimiques que sont la thymine, l'adénine, la guanine et la cytosine, TAGC. TAGC, ce sont les quatre lettres de l'ADN dont l'ordre varie à l'intérieur de ce qu'on nomme la séquence en biologie moléculaire. La séquence forme l'ensemble de notre génome, donc l'ensemble de nos gènes, et l'ordre de ces lettres, finalement, qui varie pour chacun d'entre nous, constitue notre identité sur le plan génétique. Je le mentionne aussi parce qu'il y a une analogie assez troublante à faire avec, comme j'ai lu, on l'a déjà noté, avec certaines versions de la légende juive du golem, où le golem qui est fait d'argile s'anime lorsque son créateur introduit dans une cavité de sa poitrine un ruban en papier qui porte des inscriptions kabbalistiques. Hein, une analogie assez intéressante avec la séquence génétique. Mais par ailleurs, ce qui est aussi intéressant, comme certains ont pu l'écrire, ce qui est intéressant sur le plan imaginaire pour des littéraires comme nous, c'est qu'enfin, nous sommes constitués de lettres. Hein. Nous sommes des bibliothèques ambulantes et Amundsen, justement, explique ça de façon très synthétique. Les gènes sont comme de longues suites de lettres qui s'agencent en mots, s'enchaînent en phrases et forment des livres. La bibliothèque de nos gènes est constituée de 30 à 40 000 livres, tous différents et chacun présent en double exemplaire, l'un provenant de notre père, l'autre de notre mère, deux variations sur un même thème, comme deux éditions différentes, annotées et révisées d'un même livre. Donc, nous sommes tous des livres, tous différents les uns des autres. Alors, je vous parle de, bien sûr, de la question génétique. Je vais vous parler de trois romans contemporains, mais je dirais quand même que l'intérêt pour moi, c'est aussi de suivre une filiation historique, à la fois dans le champ scientifique et littéraire, c'est-à-dire vérifier dans quelle mesure les modifications épistémologiques provoquées depuis la modernité des recherches touchant le gène, hein, grossièrement, je dirais, depuis Darwin, Mendel, Galton, ont modifié parallèlement la manière dont les textes littéraires les ont inscrits dans la narration, comme embrayeur narratif, comme mode de connaissance, mais aussi éventuellement à travers différentes postures énonciatives et en dynamisant des genres narratifs particuliers. Hein, par exemple, la science-fiction, l'anticipation, le polar, à partir de quand les polars ont commencé à utiliser des généticiens, la génétique pour essayer de trouver les coupables dans des romans, bon, des choses de cet ordre-là. Et bien sûr, on peut remonter assez loin quand même dans le passé. Je donnerai un exemple, très très rapidement parce que je manque de temps, puis de toute façon, c'est un exemple très connu, mais c'est le futur de Villiers-l'Isle-d'Adam et l'effet de l'eugénisme sur ce roman. Hein. Vous savez que l'eugénisme, c'est la science de l'amélioration de la race par sélection artificielle qu'on doit à Francis Galton, qui était le cousin de Darwin, qui était aussi un vrai scientifique, qui était statisticien, géographe, qui a donné au monde le mot anticyclone et qui a inventé le sac de couchage. Mais malheureusement, c'est pas pour ça qu'on se souvient de lui, c'est pour d'autres raisons. L'eugénisme apparaît en même temps que les théories sur le darwinisme social, à une époque où il y a clairement un imaginaire de la fin. Hein. C'est une époque aussi où on croit encore que l'univers est stationnaire et non en expansion. Et puis, on croit que avec le deuxième principe de la thermodynamique, l'entropie, on va en arriver bientôt à la mort thermique de l'univers. Bon, il y a un effet d'imaginaire de la fin qui se traduit par l'eugénisme, par le darwinisme social, par la crainte de voir la race s'éteindre ou devenir cacochime. Il faut sauver l'humanité. Si on s'entend pour dire que l'humanité, ça veut dire surtout les mâles blancs hétérosexuels, puis s'ils sont riches, ça peut aider. Alors, l'eugénisme se présente comme une résistance, ce qui relève des conditions sociologiques, environnementales qu'on peut. Et bon, le roman de Villiers, que moi j'aime beaucoup pour différentes raisons, et il faut bien dire d'une misogynie assez terrible. Et si on faisait une lecture morale, politiquement correcte de ce roman, ça conduirait assez vite à le condamner. Alors que l'intérêt, à mon avis, c'est justement de voir à quoi tient cette misogynie, qui est au fond une hyperbole de ce qu'on retrouvait beaucoup dans la société de l'époque. Et je pense que ça relève clairement d'une politique eugéniste. Dans le roman, la femme bourgeoise subversive est responsable de la mort des hommes et menace d'extinction une race d'élus, dont le personnage d'Ewald dans le roman apparaît comme le représentant. Alors, pour sauver les individus supérieurs comme Ewald, Edison, hein, Thomas Edison, le vrai, enfin, à partir du vrai, disons-le comme ça, Edison développe philosophiquement et pratiquement sa théorie eugéniste dans le quatrième livre qui s'intitule « Le secret ». Alors, je n'ai pas le temps de développer ça ici, il y a hélas trop de matière, mais je dirais quand même qu'à la manière de Galton et de sa sélection artificielle, Adali, l'Ève future, et l'instrument grâce auquel Edison intervient dans le processus naturel. L'eugénisme vient donner une raison d'être au projet d'Edison et à l'existence d'Adali. C'est la réponse technique, l'équation qui va permettre aux hommes supérieurs de vivre sans crainte, objectivement, leur passion. Je tenais à donner un exemple comme ça de la fin du 19e siècle parce que il y a des effets de résonance intéressants si on parle de génétique. Il y a à la fin du 19e siècle, chez certains, dans une certaine mesure, de différentes façons, une sorte de désespoir suscité par la science positiviste. On croit que la science positiviste va faire disparaître les mystères de l'existence et puis que tout sera dévoilé. Et bon. Mais en même temps, je trouve que dans ce discours, on n'est pas très loin d'un discours assez courant aujourd'hui, en tout cas tout un courant de la pensée actuelle qui s'oppose à la génétique, qui attaque la génétique de front, qu'on appelle, qui est présenté comme un anti-humanisme. Évidemment, bon, les débats, ils sont intéressants parce qu'ils sont riches et nombreux et complexes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être vigilant et se donner des règles d'éthique, ça va de soi. Mais en fond, on a l'impression, à lire certains, que la génétique, c'est le mal et que partout dans le monde, on s'apprête à créer des armées de blonds nazis. Et bon, moi, j'ai toujours envie de donner un cadeau à ces gens-là et on tuera tous les affreux de Boris Vian en disant « Calmez-vous un peu, là, et puis rigolez un peu. » Bon, enfin. Alors voilà pour le tableau général, comment je travaille, à partir de quoi je travaille et dans quelle filiation tout ça se situe. Je vais vous parler de trois romans. Donc, je l'ai dit tantôt, la littérature anglaise semble très intéressée par des questions de génétique. Plusieurs écrivains importants en ont traité. Je pense par exemple à Kenzo Ishiguro, qui a publié il n'y a pas très longtemps un roman, Never Let Me Go, qui parle justement de clonage. Le premier roman de Zadie Smith, qui a un succès immense à la fois populaire et institutionnel, a gagné une foule de prix. White Teeth, Sourire de loup. Parle également, concerne beaucoup la génétique, un généticien qui est un des principaux personnages du roman. David Mitchell est un écrivain aussi qui a la fin de la trentaine, tout le début de la quarantaine, qui est assez populaire en Angleterre, qui traite beaucoup de la génétique et du clonage dans ses romans. Bon, donc portrait général. Moi, je vais m'arrêter à trois romans, celui de Will Self, Vice Versa, un roman de A.S. Byatt, Le Conte du biographe, et un roman de Ian McEwan, qui s'intitule tout simplement Samedi, Saturday. Alors, c'est une façon dont je vous le dis, hein, ce sont vraiment des amorces d'analyse, parce qu'il me reste une demi-heure, mais de vous donner quand même des pistes, des tendances, une petite cartographie de la manière dont on entraide dans la fiction. Alors, je commence avec Will Self, ça mérite vraiment une gorgée. Alors, si je voulais établir une classification, il faudrait placer le roman de Will Self, Vice Versa, dans le versant iconoclaste de la typologie. Nous sommes ici dans la génétique des monstres. Diderot, dans Le rêve de D'Alembert, qualifiait la femme de monstre de l'homme et l'homme de monstre de la femme. C'est un peu ce à quoi on a affaire avec la femme et l'homme qui sont au centre des deux courts romans qui se suivent dans Vice Versa, que je vous résume rapidement. Le premier s'intitule Carol. Le personnage éponyme est une jeune Anglaise provinciale plutôt effacée. Mais cette Madame Bovary anglaise va avoir un destin bien différent de celle de Flaubert. Alors, elle s'aperçoit assez vite qu'il y a une espèce d'excroissance qui semble lui pousser autour du vagin, devant, en dessous. Il me semble que ce n'est pas très bien circonscrit. Une excroissance qui va aller, bon, en s'étirant, c'est le cas de le dire, et qui s'avère un pénis en bonne et due forme avec lequel elle va découvrir les joies d'une sexualité renouvelée. Si vous passez de l'expression, elle se masturbe à voile et à vapeur. Bon. Elle va finir par saouler son mari, ex-alcoolique notoire, passé pourtant dans les alcooliques anonymes. Elle va le saouler pour pouvoir le sodomiser. Il va finir d'ailleurs par en mourir parce que son crâne va frapper durement la tête de lit à de multiples reprises. Ça, c'est le premier texte. Carole. Dans le deuxième, Bull, un journaliste freelance et joueur de rugby amateur, découvre un phénomène étrange. Il se lève un matin et puis ce qui ressemble à un vagin semble avoir poussé derrière le genou. Son médecin va le confirmer, c'est un vagin un peu plus conforme, d'ailleurs d'une perfection remarquable, au point où le médecin tombe amoureux de Bull, ils deviennent amants et puis il l'enfile régulièrement par le derrière du genou. Mais ça ne peut pas durer, le médecin retourne chez sa femme et Bull découvre qu'il est enceint. Alors, il songe au suicide, mais décide en dernière instance d'aller accoucher à San Francisco. De toute façon, on a tout vu. Hein? C'est quand même pas un homme enceint qui accouche derrière le genou qui va énerver quelqu'un à San Francisco. Donc, il va accoucher à San Francisco avant d'aller ouvrir un magasin de sport au Pays de Galles où il va élever son petit garçon. Alors, on s'en doute, quand ce roman ou ce double roman est analysé, c'est presque toujours dans la perspective des gender studies. Hein, c'est le genre d'analyse qui cite plus souvent Judith Butler que le roman lui-même. Et il me semble que l'intérêt tient justement davantage à la construction bel et bien biologique dans ce cas-ci, et pas seulement sociale, l'identité sexuelle. Je précise aussi que Will Self, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est toujours intéressé aux questions touchant la génétique et l'évolution. Je vous recommande fortement d'aller lire son hilarant roman Les Grands Singes, qui raconte l'histoire d'un peintre branché de Londres qui, après une nuit avec beaucoup d'alcool et de cocaïne, se réveille un matin pour découvrir d'abord que sa conjointe à côté de lui est une guenon. Ensuite, qu'il vit dans une société où les chimpanzés forment l'espèce dominante. Alors, on va lui faire rencontrer, il fait une crise de nerfs, comme vous pouvez imaginer, mais on lui fait rencontrer de nombreux analystes, y compris un spécialiste de l'antipsychiatrie à la David Cooper. Et tout le monde essaie de comprendre ce cas vraiment neurologique étrange. Pourquoi un chimpanzé normalement constitué, riche et célèbre, se prend-il pour un représentant d'une espèce inférieure comme l'espèce humaine? Bon. Alors, je manque de temps, je vais m'arrêter au premier des deux textes de Self, pour voir ce qui se passe textuellement avec Carole, cette machine biologique qui devient dysfonctionnelle. Enfin, dysfonctionnelle, entendons-nous, par rapport à la normalité, à la moyenne produite par l'évolution de l'espèce. Bon, d'abord, la découverte par le lecteur du corps de Carole se fait toujours dans une perspective très physiologique. Hein. Déjà dans sa jeunesse, une de ses amies, stupéfaite devant sa méconnaissance de son corps, avait essayé de l'initier à la mécanique du corps féminin. Dans son cas, cette mécanique est toujours présentée vraiment comme pure matière, très malléable, propice aux expériences. Ses jambes, par exemple, je cite, étaient sans genoux ni tendons. On avait le sentiment qu'on aurait pu tailler dedans sans qu'elles saignent. Elle avait l'air d'être en matière synthétique, en plastique. Et quand elle découvre l'excroissance qui lui pousse entre les jambes, elle devint, je cite encore, elle devint aussi dure qu'un bloc de viande congelée. Bon. Ses relations sexuelles avec son mari Dan, qui lui-même est une mécanique pas très fonctionnelle, vont accréditer cette conception de son corps. Je cite, « Dan savait qu'il y avait un trou, mais il ne savait pas grand-chose d'autre. Ce qu'il éprouvait comme sensation lorsqu'il baisait était d'ordre mécanique, le va-et-vient d'un piston. 3 coups, un drive, 4 coups, un bogey, 5 coups, pas de finale dans le trou. » La comparaison avec la machine est assez claire. Celle avec le golf, qui, à mon avis, n'est pas le plus érotique des sports, ajoute à l'ennui de ces relations qui manquent, disons, de ludisme assez sérieusement. Même les séances de masturbation de Carole ressemblent à une mécanique, mais particulièrement bien huilée dans ce cas-là. Et en fait, on croirait vraiment, tout au long du roman, une machine recouverte d'une couche de matériel qui imite très bien la peau. Le pénis étant lui-même une excroissance particulièrement réussie de cette couche qui a l'air pas très réelle, donc je cite un petit passage. Ce qui frappait le plus Carole à propos de son pénis, c'était moins sa taille ou sa capacité de turgescence que sa versatilité. C'était, de ce point de vue, un véritable agneau de Nouvelle-Zélande. Quand c'était flasque, Carole pouvait le tordre sans effort dans un sens ou dans l'autre. À condition de ne pas tirer violemment dessus et de ne pas y planter ses ongles pointus, elle pouvait lui faire prendre toute une série de formes incroyables. Zeppelin, balle, récornu, nez, corne. Elle le fit même disparaître complètement entre ses cuisses serrées et, se regardant dans le miroir, se retrouva femme à 100%, mais elle en frémit et fut heureuse de lui rendre sa liberté. Quand le pénis était en semi-érection, elle pouvait presque s'enfiler elle-même, le repliant vers elle de façon à ce que le gland pénètre dans le vagin. Mais c'était un jeu de gosse. Traduction de France, on fait ça, crée parfois des effets quand même assez particuliers. Je pense que celle-là, il faudrait l'écrire à Wilson pour l'expliquer. Il risquerait de la trouver pas mal. Alors, je vous ai donné quelques exemples, on pourrait en ajouter beaucoup. Qui tendent à faire de Carole, en fait, un phénomène biologique très particulier, une machine physiologique presque sans conscience, entièrement déterminée par des anomalies génétiques. On pourrait la considérer comme une Ève future, mais une Ève future postmoderne, ça nous conduit pas mal loin, une machine double qui est bien de son temps, qui est moins produite par des créateurs qu'autoproduite par un dérèglement particulier. Mais si je parle d'une machine de son temps, c'est aussi parce que le dérèglement a produit un phénomène que Villiers risquait moins de présenter de manière aussi explicite. Il s'agit, vous l'avez compris, d'une machine sexuelle. Et de ce point de vue, un élément important de la narration mérite d'être mentionné, qui complique ou qui rend plus intéressant le roman. Cette histoire, elle est narrée dans un train, cliché phallique monstrueux, et elle est narrée à un homme par un curieux professeur, une figure qui apparaît, à mesure qu'on avance, de plus en plus angoissante, une sorte de figure diabolique et j'oserais dire, inhumaine. Et d'ailleurs, l'individu à qui il s'adresse et à qui il raconte cette histoire dira « Ce mutant lisait dans mes pensées ». Et il est en effet une sorte de mutant, une sorte de double de Carole, comme il l'avouera lui-même. « Je suis une espèce de mule ou de mulet, un cul-de-sac en matière de procréation, une impasse sur le plan génétique. » Et le personnage à qui l'histoire s'adresse sera d'ailleurs lui-même violé par ce professeur, comme Carole viole son mari dans la narration, et va rester l'ambiguïté de se demander si ce professeur n'est pas lui-même Carole qui se serait enjolivée ou qui aurait bien changé, ou est-ce une fiction, jusqu'à quel point c'est une fiction, etc. Alors qu'il s'agisse de son histoire ou d'une histoire qu'il invente, moi ce qui m'intéresse c'est de constater qu'il y a en fait dans ce roman une double histoire, une qui concerne la sexualité à travers une génétique particulière, et une autre où un train est au centre de l'action. Et là, il me semble que cette double histoire rappelle non pas les futurs, mais plutôt un roman un peu plus tardif, qui est Le Surmâle de Géry. Comme André Marcueil et Hélène Nelson dans Le Surmâle, Carole et Dan sont enfermés dans une pièce au moment de leur relation sexuelle intensive. Je vous lis un paragraphe que Carole fait subir à Dan. Parfois, juste après avoir frappé un grand coup, elle marquait un temps d'arrêt et puis elle remettait ça de plus en plus brutalement. Elle ne se rendait plus compte du fait qu'elle lui rentrait dedans. Elle ne pensait plus à son membre tout neuf. Elle ne remarquait pas avec quelle force, chaque fois, le crâne allait se fracasser contre la tête du lit. Non, pour elle, le monde entier, que dis-je, le cosmos, tenait tout entier dans un va-et-vient rythmé accompagné d'un bruit rouillé de ferraille, de chaîne qu'on agite, dans un jaillissement spasmodique d'une larve hors de sa chrysalide fibreuse. Alors, ça devient vraiment quelque chose de tout à fait cosmique. Et on a, comme chez Jarry, je dirais, le rapport au sexe ici est à la voix cosmique et machinique. Vous avez le bruit rouillé, bien sûr, de la ferraille qui rappelle le train. Dans le surmâle, tout de suite après que Marqueuil et Elsun ont fait l'amour, la jeune femme monte dans sa voiture, qui est décrite d'ailleurs de manière très anthropomorphique. Hein, je n'ai pas les citations du surmâle, puis je vous lis ça en traduction, mais ça serait trop long. Mais le rapport machinique entre la jeune femme et la machine, qui est d'ailleurs présentée comme un monstre chez Jarry, est là aussi assez clair. Par ailleurs, bien sûr, je rappelle qu'Hélène Elsun est la fille du savant qui a inventé le mouvement perpétuel et la fameuse course de 10 000 milles où le train fait son apparition dans le roman. Alors, il me semble que ce rapport de filiation, en creusant un peu, on pourrait aussi l'envisager chez Self d'abord. Filiation par rapport à Jarry, peut-être, filiation aussi entre père et fille, entre ce professeur et Carole elle-même. En tout cas, l'Ève future, toute mécanique physiologique et génétique qu'elle soit, a largement échappé, dirais-je, au vilier de l'éladante de cette planète. Et on peut se demander si le surmâle de notre époque post-genre n'est pas devenu une surfemelle capable d'absorber deux genres, mais rapidement écartée elle aussi du pool génétique pour monstruosité. Sauf que, je tiens à préciser qu'à la fin du roman, Carole disparaît, et comme le monstre de Frankenstein, on ne sait pas si elle meurt, et son ombre, peut-être, continue à planer au-dessus de l'Europe. Deuxième roman dont je veux vous parler, ici c'est plutôt l'histoire des sciences qui est en jeu à travers le roman de A.S. Byatt, Le Conte du biographe. Je dirais entrelacement de l'histoire des sciences, de la génétique et de la biographie. C'est l'histoire d'un étudiant en troisième cycle en littérature, Phineas Nansen. Quand le roman s'ouvre, il est dans un séminaire et puis il est victime d'une sorte d'illumination, décision subite, il décide de laisser tomber sa thèse. Ça commence l'incipit de façon intéressante. J'ai pris une décision ex abrupto au milieu d'un des célèbres séminaires théoriques de Garrett Butcher. Il était en train de citer Empédocle de sa voix claire et retentissante. Ici surgirent mains visages sans cou, des bras arrivèrent sans épaules, arrachés à rien, et des yeux passèrent seuls, en grand besoin de front. Alors, ces corps morcelés, ces membres qui semblent indépendants les uns des autres, font penser justement à un assemblage génétique, à une manipulation qui cherche à redonner vie à l'inanimé, que le responsable du séminaire en question s'appelle Boucher, de ce point de vue assez intéressant. On peut aussi en faire une lecture métatextuelle. Comment organiser le corps textuel pour en faire un tout dynamique et vivant qui ne soit pas limité à des pièces éparses? Et à la fin du premier paragraphe, d'ailleurs, Nansen déclare qu'il n'a pas pu aller au séminaire précédent de Butcher, qui portait sur Frankenstein, manière ironique peut-être pour l'auteur de signaler que Phineas ne pourra pas échapper aux questions de génétique et de filiation qui en fait vont traverser tout le roman. Alors, il décide de laisser tomber sa thèse, il ne sait plus trop quoi faire. Il va voir un professeur du département, Omred Good, un spécialiste des langues anciennes, qui va lui suggérer la lecture d'une biographie d'un grand savant, d'un grand érudit du 19e siècle. Et pour Good, il s'agit du modèle de la biographie. Et Nansen est un peu sceptique, ne voit pas l'intérêt qu'il peut y avoir à écrire un livre sur la vie d'un homme. Et Good va défendre le genre biographique passionnément de la façon suivante. Une grande biographie est une noble chose. Considérez, a-t-il dit, le fait qu'aucun individu ne ressemble à aucun autre. Nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas des êtres haplodiploïdes. De l'œuf à l'éventuel déclin, chacun de nous est unique. Alors, on peut s'étonner quand même de certaines formulations dans un contexte où, après tout, il est question de parler de littérature. Aucun individu ne ressemble à aucun autre. Nous ne sommes pas des clones. De l'œuf à l'éventuel déclin, des êtres haplodiploïdes, ce qui renvoie à haploïdes, ce qui se dit une cellule qui possède un seul jeu de chromosomes. Alors, il y a toute une série, une façon de s'exprimer qui renvoie le biographique au génétique et qui rappelle qu'il s'agit de deux manières d'inscrire une filiation. Alors, c'est un parallèle qui serait un peu simpliste, sans doute, si, en fait, génétique, biographie, filiation ne cessaient pas de s'entrelacer dans le roman en question. Ce qui va se passer, c'est que Nansun, à sa grande surprise, va dévorer cette biographie d'Omrod Good, va la trouver absolument passionnante, au point où il décide d'écrire la biographie du biographe, qui s'appelle Skulls d'Esri Skulls. Et, comble de l'ironie, il n'y a à peu près aucune trace du biographe. Il est mort assez jeune, en 1965. Il se serait noyé. Donc, on a très peu de choses sur lui. Alors, Nansun fait des recherches, entre en contact avec différentes personnes qui possèdent des documents sur lui, notamment avec une archiviste qui va lui remettre trois courts textes dont le statut apparaît un peu flou. On ne sait pas trop s'il s'agit de fiction, de fragments biographiques, de mélange de biographie et d'autobiographie. Le roman reproduit ces trois fragments et où les, dans les trois cas, les protagonistes sont représentés par des initiales CL, FG, HI. Alors, on finit par comprendre qu'il s'agit du naturaliste suédois Carl Linné, un des premiers penseurs d'écologie, du scientifique Francis Galton et de l'écrivain Henrik Ibsen. Alors, un taxinomiste, un statisticien, un dramaturge. Le sens de ces textes-là est assez obscur, puisque les textes s'arrêtent à quelques traces biographiques ou inspirées de la biographie, sans que le sens général du propos soit révélé, d'autant plus que les textes sont incomplets. Et puis, Nansun reçoit une lettre de la nièce de Desri Skulls. Elle se dit en possession de plusieurs choses qui le concernent, hein, le terme est aussi vague que ça, des choses qui lui ont appartenu et qui se trouvent dans une valise. Et les documents que Nansun va trouver dans cette valise, qui sont fragmentaires, il y a des fiches, des ébauches d'informations, des extraits de lettres, des photos, vont rester largement fragmentaires. Et en fait, ces documents vont ouvrir un abîme. La narration se délite. Le roman joue même des codes génériques. Hein. Nous sommes en fait en pleine génétique métextuelle. On ne sait plus trop comment lire ce texte. Nansun découvre que certaines fiches qui semblent de la main d'Esri Skulls sont en fait copiées d'une biographie de Galton. Tels faits supposément avérés de la vie de Galton ont été niés par Galton lui-même. Non seulement tel voyage de Linné n'a pas de fondement historique, mais Nansun indique dans une parenthèse qui ressemble à un détail à la fin du roman, ceci. Ai-je dit que la contrefaçon par Desri Skulls de la fabrication par Linné de sa fausse visite du Maelstrom était un pastiche d'Edgar Allan Poe? Alors, cette question qui est présentée à la toute fin, qui a l'air sans importance, en fait, voit le roman s'écrouler parce que, évidemment, à partir de là, jusqu'à quel point les informations historiques, biographiques qu'on trouve dans le roman sont-elles justes? Et la question que Nansun va se poser souvent, c'est qu'est-ce qui relie ces trois hommes? Pourquoi Linné, Galton et Ibsen? Bon, il y a une forme de filiation possible. Chacun a vécu dans l'ombre d'un double. Linné, c'était le naturaliste Petrus Artedi. Galton, c'est bien sûr Darwin. Ibsen, c'est un fils illégitime. Dans les trois cas, on peut parler d'échecs au moins relatifs de leur travail, tel qu'il est présenté dans le roman. L'héritage du travail dramaturgique d'Ibsen n'est pas présenté très positivement. Les classifications de Linné aujourd'hui sont balayées par un tout autre mode de classification, le cladisme. Puis l'eugénisme de Galton, ben là, je pense que je n'ai pas besoin d'insister. Autre élément qui relie les trois hommes, tous les trois ont beaucoup voyagé, il y a beaucoup de questions de voyage, c'est une métaphore filée, je n'ai pas le temps de m'arrêter, mais il y a un voyage en tout cas qui apparaît en creux, qui est important, c'est celui de Darwin sur le Beagle, puisque les fiches que Desri Skulls, que Nansun découvre, font état de nombreux débats entre Galton et son cousin autour de la pangénèse, qui est un mécanisme hypothétique conçu par Darwin pour expliquer l'hérédité. Bon, je rappelle que Darwin n'a jamais eu accès aux travaux de Mendel. Alors, ce débat dans le roman est très intéressant du point de vue qui m'intéresse ici autour du gène. Je ne peux pas vraiment développer, mais au moins dire ceci. Ce débat qui porte sur des hybrides potentiels, sont des travaux de Galton sur la reproduction de lapins, concerne aussi l'hybridité générique du texte, les dérives du langage et la biographie. À un moment donné, tous ces éléments-là se superposent. Tout apparaît en palimpseste, à l'image d'ailleurs des fameuses photos de Galton que vous avez peut-être déjà vues, qui sont assez saisissantes, ces fameux composites. Hein, Galton superposait des photos de membres d'une même famille souvent pour voir apparaître ce qu'il appelait des types particuliers. Alors, dans le roman, d'ailleurs, on reproduit une de ces images, trois photos de trois sœurs, et une quatrième photo que Nansun appelle la tête familiale, grand T, grand F. Ce sont les trois sœurs qui sont superposées. Alors, il est très impressionné par ça. D'ailleurs, il va appuyer les propos de Galton en disant ceci. Donc, Nansun dit, « Il est difficile de ne pas être d'accord avec Galton que ses surimpressions, peut-être en partie à cause de l'effet stéréoscopique, et du sentiment pour un œil moderne que le sujet a bougé au moment crucial de l'ouverture de l'obturateur, sont effectivement plus vivantes et mieux proportionnées que leurs composants. Mais en même temps, il va ajouter comprendre pourquoi les sujets de ces photos, eux, donc ces individus qui étaient photographiés, le prenaient généralement en mauvaise part. Quelque chose avait été supprimé du fait d'avoir été ajouté. Et en fait, c'est exactement la façon dont le roman lui-même fonctionne. C'est-à-dire qu'il distille à la fois des informations qui sont vraies et fausses. Les fausses permettent d'ouvrir à la compréhension du lecteur des choses que les vrais, les faits, ce qui est factuel, ne suffit pas toujours à amener à la conscience. Alors, filiation, hérédité, génétique, évolution sont ici au cœur des informations rassemblées par Death Risk Cause. Elle reste indissociable du langage tout le temps. Nansun fouille dans les notes, essaie de comprendre, dit à un certain moment, « Nous pensons par clichés parce que les clichés sont des idées qui ont prouvé au cours des siècles qu'elles sont, pour ainsi dire, les plus aptes dans l'acception darwinienne du terme. C'est pas un hasard. L'enjeu des débats entre Galton et Darwin qu'on retrouve dans le roman, les liens entre Linné et Artedi, c'est aussi en même temps l'évolution du genre biographique et les effets hasardeux de l'histoire. » Vous savez peut-être que, bon, comme l'évolution darwinienne, je dirais que l'histoire est indissociable du hasard. Vous connaissez peut-être la phrase de Valéry qui écrivait que l'histoire n'enseigne rien parce qu'elle donne des exemples de tout. Il n'y a pas d'ordre ou de vérité de l'histoire. L'intérêt ici, dans ce roman, en fait, c'est de réfléchir sur l'histoire à travers l'histoire de l'évolution et de la génétique, de manière fragmentaire, hein, sans chercher à rétablir une sorte de providentielle linéarité. Les accidents de l'histoire sont nombreux et l'histoire de la génétique le démontre. Nansun, à un certain moment, cite le biographe de Galton, Pearson, qui était un de ses anciens étudiants. Je suis allé vérifier, c'était bel et bien une biographie de Pearson qui existe sur Galton. Et Nansun rappelle que Pearson, à un certain moment, vante les travaux de Galton sur les changements raciaux dans le but de contrôler l'évolution de l'homme. Et Nansun ajoute, « La réaction horrifiée que provoquent aujourd'hui en nous de telles déclarations n'eût assurément pas manqué de surprendre des idéalistes de la fin du règne de Victoria. » Et les aléas de l'histoire ont en effet des effets radicaux sur les biographies individuelles. Galton en est un bel exemple. Alors aujourd'hui, il y a, je vous apprends rien, un déferlement de biographies, d'autobiographies, de faits vécus qui alimentent largement le discours social. Mais dans ce roman, je dirais qu'à l'image de la double hélice, les réflexions très nombreuses sur la biographie, si j'ai pas le temps d'en parler, s'entrelacent continuellement à des réflexions sur le biographique, à la fois sur le biographique et sur le génétique, l'hérédité, l'histoire, et tout ça fonctionne ensemble. Troisième et dernier roman, enfin, dont je veux parler, c'est Samedi, d'Ian McEwan. Alors là, on entre dans le genre pour spécialiste, puisqu'il s'agit d'un neurochirurgien qui est au centre de ce roman. Samedi raconte une journée dans la vie de ce neurochirurgien, Henry Perrone, et les questions de génétique, d'une maladie génétique en particulier, qui est au cœur du roman. Mais le roman repose aussi en filigrane sur la théorie de l'évolution. Alors, Samedi, donc, c'est le titre du roman, ça se passe en une journée. C'est le jour de congé traditionnel de Perrone, mais ce samedi-là est particulier pour une double raison. D'abord, sa fille qui étudie à Paris depuis 6 mois rentre ce soir. Son beau-père, qui est un poète célèbre, un vieil homme assez irascible qui vit en France, sera là pour l'occasion. Sa femme et son fils aussi. Donc, il y aura, pour la première fois depuis longtemps, une vraie réunion de famille, un vrai repas de famille. Mais c'est aussi un samedi un peu particulier parce que nous sommes le 15 février 2003 et c'est le jour où a lieu à Londres la grande marche de protestation contre l'entrée en guerre de l'Angleterre contre l'Irak. C'est une guerre envers laquelle les réflexions de Perrone sont assez mitigées. Pour le reste, la journée s'annonce assez banale, c'est-à-dire qu'il va jouer au squash avec son anesthésiste, comme tous les samedis. rendre sa visite hebdomadaire à sa mère qui est maintenant sénile, qui est dans une résidence spécialisée, puis faire les courses. Bon. Sauf que l'évolution d'une journée, comme l'évolution des espèces, peut se modifier par toutes sortes de hasards que seul un humain trouvera malencontreux. Et c'est indirectement à cause de la guerre qu'une autre violence, qui celle-là ne concerne que Perron et éventuellement sa famille, va se déclencher. Alors, il se rend à son match de squash, les rues sont fermées à cause des manifestations, ça l'emmerde un peu, il décide pour aller plus vite de prendre une rue qui est fermée à la circulation et il est frappé par une autre voiture qui entre aussi dans cette rue et l'autre conducteur est manifestement dans son tort. Alors, il est furieux et réagit brusquement. Sauf que les trois individus qui sortent de la voiture sont manifestement beaucoup plus agressifs que lui. Et bon, lui insiste pour avoir un constat officiel. Il reçoit un coup de poing. Il est traîné dans un coin où personne ne peut les voir par les trois types en question qui veulent lui démolir le portrait. Alors, il doit penser vite. Et là, son expérience médicale, son regard médical aidant, il a l'intuition que le leader du groupe, qui s'appelle Baxter, avec qui donc il parle depuis 10 ou 15 minutes, est atteint de la maladie d'Huntington, qui est une maladie génétique héréditaire, dont les symptômes sont à la fois physiques, émotionnels, cognitifs. C'est une maladie dégénérative qui conduit à la démence. Et là, Perron joue un coup de poker. Il lance à Baxter, « Votre père souffrait et maintenant vous aussi. » Et là, il est sauvé par son métier. Baxter interrompt les deux autres. Perron lui parle de sa maladie, lui laisse croire qu'il y a de nouveaux traitements pour la maladie. De guerre lasse, les deux complices s'en vont. Et Baxter lui-même finit par laisser le neurochirurgien partir. Sauf que il s'est senti très humilié par cette histoire. Et le soir, il a suivi Perron dans la journée. Et le soir, avec un de ses deux acolytes de l'après-midi, il entre chez Perron avec un couteau. Bon, je ne vous raconte pas, la situation est extrêmement tendue. Ça dure un certain temps. Finalement, Baxter est monté dans le bureau de Perron et celui-ci, avec l'aide de son fils, réussit à le faire tomber dans un escalier. Baxter se fracasse le crâne. On appelle l'ambulance, la police, etc. Ironie du sort, après le départ de l'ambulance et de la police, Perron est appelé par l'hôpital. Une opération urgente doit avoir lieu sur un homme qui est tombé dans le coma suite à une chute. L'opération est délicate, l'interne ne peut pas les réaliser seul, et donc il décide d'aller à l'hôpital et il va sauver son agresseur. Et après, de retour chez lui, il se dit qu'il va convaincre sa femme de laisser tomber les poursuites. C'est lui qui a provoqué Baxter par son agressivité lors de l'accident. Baxter n'est pas responsable de ses gènes. Alors, samedi, c'est l'exploration d'une conscience, mais je dirais de façon plus large, celle de la conscience, puisque Perron, qui est un neurochirurgien, un type extrêmement matérialiste, ne cesse d'objectiver ses réactions, celles des autres, en fonction de critères matérialistes. C'est-à-dire, par exemple, pour une large part, les rapports humains se jouent au niveau moléculaire. Qui mesurera jamais les dégâts causés à l'amour, à l'amitié, à tous les rêves de bonheur par un excès ou un déficit de tel ou tel neurotransmetteur? Et une conscience, c'est fait de digressions. Alors, ces digressions lui viennent à l'esprit, donnent une sorte de densité, je dirais, à ce qu'il voit et entend autour de lui. Et il explore ce qu'il lit, esprit, corps, action, pensée, émotion. Ses réflexions sont aussi indissociables de son admiration pour le travail de Darwin. Il se réveille le matin avec une phrase qui tourne en boucle dans sa tête. Il y a de la grandeur dans cette conception de la vie. Et il se souvient que c'est le début de la dernière phrase de l'Origine des espèces de Darwin, qu'il est en train de lire la biographie de Darwin, et il se sent en parfaite connivence avec cette manière de voir les choses. C'est motivé par l'esprit évolutionniste de Darwin que Perron regarde le monde autour de lui. Et face au mythe, Perron prend clairement parti pour l'évolution, dont je vous cite un passage. Pouvait-on rêver meilleur mythe de la création, une échelle temporelle inimaginable, d'innombrables générations produisant à des doses infinitésimales une beauté vivante et complexe à partir de la matière inerte, sous la conduite de ces furies aveugles que sont la sélection naturelle, les mutations génétiques et les modifications environnementales? Et, bonus sans précédent, le fait que cette histoire-là se soit révélée rigoureusement vraie. Le nom de Darwin ne revient pas souvent dans le roman, mais il apparaît omniprésent, il motive les pensées du neurochirurgien, et il apparaît vraiment comme le sous-texte qui explique et justifie non seulement la réflexion de Perron, mais je me dirais la façon dont les événements se déroulent. Par exemple, au début du roman, Perron se réveille très très tôt le matin, Et il craint le pire en voyant un avion qui est manifestement accidenté, qui se dirige vers Heathrow. Et bon, il a peur et il se demande, il réfléchit sur sa manière d'envisager les choses et dit « Cette tendance à imaginer le pire est un héritage de la sélection naturelle dans un monde dangereux. » Alors, Perron, il est marqué par une vie consacrée à l'étude du cerveau, mais aussi par une conception du réel qui est imprégnée par la pensée darwinienne. Perron n'est pas candide, et ça revient un petit peu à ce que je vous disais plus tôt, c'est justement un personnage qui considère qu'on ne peut pas tout ramener aux gènes uniquement. Quand il pose l'hypothèse qui va s'avérer juste que Baxter a la maladie d'Huntington, il va ajouter « C'est un homme intelligent qui donne l'impression, maladie mise à part, d'avoir raté sa chance, fait de grosses bêtises et de mauvaises rencontres. » Maladie mise à part, donc, il existe aussi des facteurs aggravants. J'achève. Le contexte socio-historique particulier, c'est-à-dire à la fois la manifestation contre la guerre, les effets prégnants des événements du 11 octobre, du 11 septembre, j'ai déplacé. Il y a eu une faille du consomme espace-temps. Donc, des événements du 11 septembre qui sont lourds sur cette journée de manifestation, la crainte d'une attaque contre Londres. Tout ça fait en sorte que la journée n'est pas normale et on ne peut pas comprendre la conscience de manière purement biologique. La violence, elle est partout cette journée-là. La lutte pour la vie va prendre d'étranges voies. Et si Perron n'avait pas lui-même été bouleversé par ses réflexions sur la guerre, peut-être qu'il n'aurait pas agi de cette façon avec Baxter, qu'il aurait été plus conciliant et que la violence privée n'aurait pas rejoint la violence sociale. Il reste que le matérialiste radical de Perron va avoir un avantage décisif, c'est que sans ça, il n'aurait peut-être pas sauvé la vie de Baxter. Et dans une scène que je trouve absolument magnifique, à la fin du roman qui est décrite de façon très clinique, c'est le cas de le dire ici, le lecteur va assister en direct et en détail à l'opération effectuée sur Baxter. Alors, on est dans le bloc opératoire, on est vraiment là. Baxter est allongé sur le ventre, son corps est recouvert et, je cite, « On ne voit de lui que l'arrière de son crâne rasé jusqu'au vertex, le sommet de la tête. Une fois le patient ainsi recouvert, tout sens de son individualité, de sa singularité, disparaît du bloc opératoire. Il ne reste de lui que ce morceau de crâne, théâtre des opérations. » Ce qui fait que le matérialisme de Perron, en fait, lui fait complètement oublier la violence physique et psychologique que Baxter a exercée à l'égard de sa famille. Ce qu'il y a devant lui, ce qui existe, c'est un corps qu'il faut remettre en bon état. Et en fait, ça va plus loin que ça, c'est que secourir Baxter lui apporte un immense apaisement, lui permet de faire baisser les tensions de la journée, comme d'ailleurs à chaque fois qu'il opère. C'est un travail qui est ultra spécialisé, qui est sophistiqué, qui est présenté ici de façon très technique, et qui rappelle paradoxalement à Perron son enfance, je cite, « Baigné dans la clarté de ciel éthique, c'est un rappel de l'enfance, de la fascination exercée par le huis clos des jeux de société. » Il regarde à l'intérieur du crâne de Baxter et il peut aisément se convaincre que c'est un territoire familier, sorte de patrie avec ses collines et ses vallées encaissées, chacune ayant un nom et une fonction précise qu'il connaît aussi bien que sa propre maison. Alors, Perron est habité par les découvertes de la génétique, mais il est marqué aussi de manière plus cryptée par Darwin. Et il va faire à la fin du roman, en regardant par la fenêtre, un retour sur sa journée qui relève d'une sorte de darwinisme social, mais qui ne doit rien à Spencer. Je cite le roman pour la dernière fois. « Il se sent faible et ignorant, effrayé par la vitesse à laquelle les conséquences d'une action peuvent vous échapper et engendrer de nouveaux événements et de nouvelles conséquences jusqu'à vous mettre dans une situation que jamais vous n'auriez imaginée et choisie. » L'autocritique de Perron est peut-être un peu exagérée. Il se dit faible et ignorant. Peut-être qu'il faudrait substituer à ces deux termes « humble et curieux ». Ça serait peut-être plus juste. En tout cas, tout le roman, lui, au fond, révèle l'extraordinaire potentialité imaginative d'un monde qui est en évolution et une évolution qui se cache sous une banalité apparente. Alors, je conclue d'abord en citant Italo Calvino. C'est toujours une bonne façon de conclure, puisqu'il y a des bonnes phrases pour tout. C'est dans les leçons américaines, Calvino écrivait « La littérature ne peut vivre que si on lui assigne des objectifs démesurés, voire impossibles à atteindre. Depuis que la science se défie des explications générales comme des solutions autres que sectorielles et spécialisées, La littérature doit relever un grand défi et apprendre à nouer ensemble les divers savoirs, les divers codes pour élaborer une vision du monde pluriel et complexe. C'est un texte qui date de 89, qui était publié en 89, mais ses propos font écho à un livre que j'ai lu, c'était, qui est paru tout récemment, d'un physicien, Étienne Klein, un livre qui s'intitule « Galilée et les Indiens », où Klein dit que l'incomplétude de la science serait, je le cite, « la condition de sa fulgurante efficacité. C'est parce qu'elle n'embrasse pas toute chose que la science étreint bien et devient féconde. » Alors, c'est un exemple où la pensée, les pensées scientifiques et littéraires se rejoignent. Et c'est vrai qu'interroger les sciences à travers la littérature, c'est justement une façon d'affronter les grandes questions, de proposer des explications générales. C'est interroger aussi un au-delà, un irreprésentable, parce que les sciences, de plus en plus, nous conduisent vers un en-deçà du visible, dont le gène est un bon exemple. Et je conclue ma conclusion par une petite réflexion qui va peut-être permettre d'ouvrir la discussion autour de l'idée de valeur, qui est un mot qui est toujours très délicat aujourd'hui dans notre monde postmoderne où le relativisme est à l'honneur et où les hiérarchies sont très mal vues, mais il me semble que le texte littéraire défend ou peut défendre, en tout cas, des valeurs, non pas de manière morale, en disant « voici ce qui est bien ou ce qui est mal », non pas de manière didactique en disant « bon, je vais vous expliquer ce qu'il faut penser », mais d'un point de vue cognitif, justement, en s'interrogeant sur le sens des valeurs aujourd'hui dans certains domaines. Il me semble ici c'est pertinent à l'aune de deux grands domaines de la science qui ont des répercussions sur l'ensemble du champ social. Au fond, hein, c'est seulement à partir du milieu du 20e siècle, d'abord à cause de la bombe nucléaire en 1945, et puis des manipulations génétiques bon, consécutives à la découverte de l'ADN, beaucoup d'autres raisons, mais je dirais que ça fait au fond à peu près 50-60 ans, qu'on a commencé à prendre conscience qu'il existe une ligne de partage entre science et valeurs. Et ce constat a modifié le rapport des Occidentaux à la science, et il me semble que la fiction rend compte à sa manière, et ce faisant, embrasse une large part du discours social, parce que bien sûr, encore une fois, parler des sciences, c'est parler aussi de la culture de façon très, très large. Alors voilà, j'espère que j'ai fait 61 minutes. J'ai tenu.
Alors, merci beaucoup, Jean-François Chassé, pour cette présentation vraiment très stimulante. J'imagine que plusieurs personnes ont des questions, interrogations, commentaires. Oui, il y en a même.
Je me demandais, à propos des quatre romans que vous avez analysés, est-ce que les avancées, les découvertes vraiment très contemporaines en génétique informent les romans, est-ce qu'on retrouve des fragments mm-hmm. de textes vulgarisés ou non dans la fiction, dans les réflexions des personnages,
des choses comme ça? C'est très variable, évidemment. Dans le cas de Ian McEwan, c'est très, très clair. De toute façon, il a des remerciements à la fin assez longs à l'égard d'un neurochirurgien qui l'a suivi pendant 2 ans. Puis bon, j'ai lu des textes où effectivement, il a passé 2 ans. Je m'étonne même que ce neurochirurgien a accepté qu'un écrivain soit là tout le temps dans la salle. Mais il y a même une anecdote à un certain moment où McEwan explique qu'il est assis, puis il y a des internes qui arrivent, qui lui posent des questions très techniques, et puis il répond, et puis c'est exactement ça. Parce que, bon. Alors oui, ça, ce roman est très, très informé, mais évidemment, bon, pas chez Will Self, c'est iconoclaste. Donc ça varie énormément, mais je pense que ça fait aussi partie de l'intérêt de constater qu'en fait il y en a qui sont très très près de la science et d'autres qui s'en servent simplement vraiment comme embrayeur narratif ou comme une façon aussi de parler des textes de manière intertextuelle.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mon fils, je me demandais si cette interpénétration-là des discours, on pouvait l'observer aussi. Bon, je sais que vous travaillez en littérature, mais dans les discours scientifiques, est-ce que du littéraire, est-ce que les scientifiques s'intéressent à ce que les littéraires peuvent écrire sur la science, comment ils peuvent utiliser certains concepts?
Oui, bon, c'est un peu anecdotique, mais je rappelle, le mot quark, quand même, vient de Joyce, hein, de Finnegan's Wake. Mais bon, ça, c'est un peu anecdotique. Oui, moi, C'est un peu triste de le dire, mais j'ai souvent l'impression que les scientifiques, en fait, certains scientifiques s'intéressent beaucoup plus à la littérature que les littéraires s'intéressent à la science. Bon, il y a des exemples historiques, hein? Robert Oppenheimer, par exemple, qui était physicien, qui était le responsable du Manhattan Project, était un très, très grand lecteur, a écrit des textes justement sur les poètes et scientifiques en disant qu'au fond, ils avaient une même manière de voir les choses. Donc, il y a des esprits obtus aussi, hein, comme partout. D'ailleurs, Oppenheimer recevait des lettres de certains de ses amis physiciens qui disaient: « Mais comment peux-tu t'intéresser à la poésie? On ne comprend rien là-dedans. » Alors que la physique, c'est tellement clair.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Sylvain David.
Quand on cherche à penser comme ça l'interaction entre un discours littéraire et un discours social qui traiterait de science, est-ce qu'on a affaire à un vrai discours scientifique ou au discours de la vulgarisation scientifique?
Bon, alors c'est ce que je disais tantôt, je peux revenir, c'est l'occasion d'y revenir un peu. C'est clair qu'il ne s'agit pas de plaquer les discours scientifiques sur les textes, c'est pas possible. Je pense qu'il y a des effets de médiation qui relèvent bien sûr de la vulgarisation scientifique, entre autres, qui posent des problèmes particuliers à la vulgarisation, parce que la vulgarisation scientifique est elle-même dans la métaphore, hein, c'est un des problèmes. Mais aussi des discours éthiques, des discours philosophiques, etc., etc. Chez McLuhan, pour reprendre cet exemple-là, chez lui, de façon manifeste, il y a un intérêt pour la neurochirurgie. Il a vraiment fait des recherches pendant 2 ans. Ça se sent dans le roman continuellement. Mais c'est pour ça que je disais tantôt, c'est pas pour rien que j'ai expliqué comment se déroulait ou s'énonçait un clonage, parce que ça a l'air tellement simple qu'à partir de ça, évidemment, on peut fantasmer absolument n'importe quoi. C'est pas un discours technique très, très complexe. Alors que la neurochirurgie, ça l'est quand même un peu plus. Il y a un certain nombre de termes techniques ici qu'on comprend dans le contexte. Moi, si on veut vraiment comprendre, il faut aller chercher dans des dictionnaires spécialisés. Alors oui, effectivement, je dirais que dans la large majorité des cas, ce qui est pris, sont utilisés des discours de médiation. Et donc, ce sont des médiations à partir de médiations qui, même parfois, utilisent dérives. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé de dérives aussi. Mais c'est intéressant de voir comment ces dérives se font et quelles dérives se font. Je reprends un exemple qui est toujours classique, parce qu'il est extrêmement spectaculaire, mais la fameuse image qu'on voit tout le temps, qui est reprise en politique, qui est reprise en caricature, sorte de façon, du singe à quatre pattes qui s'élève peu à peu et qui devient un bipède, un homme, ben c'est supposé représenter la théorie de l'évolution de Darwin. Évidemment, c'est totalement contraire à la théorie de l'évolution, puisque la théorie de l'évolution, selon Darwin, repose justement sur le hasard. Et là, on a un déterminisme absolu. Bon. Donc là, il y a une dérive. En fait, ça va à l'encontre de la théorie de Darwin, mais c'est une dérive qui dit quand même quelque chose, qui dit « nous sommes des primates ». Et ça a été compris. Ça, effectivement, oui, nous sommes des primates. Bon. Alors, il y a toutes sortes de façons comme ça de revenir aux scientifiques. Et dans certains cas, c'est très intéressant parce que justement, c'est pointu. On voit que les écrivains savent précisément de quoi ils parlent. Et d'autres façons, c'est très intéressant parce qu'ils disent justement n'importe quoi.
Il y avait Pierre Popovic.
Oui. J'ai d'autres questions,
Ça va me rebrousser.
Je ne sais pas très bien par où les prendre. Peut-être comme ceci. N'aurait pas l'impression qu'il y a là, dans les trois textes dont on a parlé, peut-être dans d'autres aussi. Moi j'ai lu comme beaucoup de gens ici au Houellebecq parlant du clonage. Je me souviens d'un petit roman d'Ilier Van Cohollaert tout à fait marrant où des scientifiques américains, je crois, ont cloné le Christ à partir du Saint-Suaire de Turin et on a perdu le type en fait. L'embryon, quoi, et puis donc un jour il découvre que c'est un mec qui est coiffeur, je crois, qui est dans une vie américaine, et directement c'est lui comme du Christ, quoi. Donc, le type souvent va être profondément emmerdé, parce qu'il y a à peu près tous les scientifiques et un tas de politiciens au dos.
Sans compter le poids sur les épaules, quand même.
Il y a un texte comme ça qui résonnait avec ce que tu présentais. J'essaie quand même de me dire finalement quelles sont les questions principales que traitent ces romans-là. Et bon, à la fois dans les exemples que je connaissais, dans ceux que tu as présentés, il me semblait qu'il y a au moins trois choses qui ont elles-mêmes une histoire en littérature, ça remonte au moins au 19e et bien avant. Il y a d'une part le monstre, mm-hmm. hein, donc, qui est au premier plan, hein, le Magin dans le genou et compagnie, ça rappelle carrément les monstres des foires avec ces gens qui avaient ramené dans le dos, enfin, pour les fabriquer. Mais c'est bon, il y a le monstre, il y a la filiation, deuxièmement, et puis troisièmement, il y a le sexe, c'est-à-dire la reproduction dans un certain. Et est-ce que ça jouerait comme ça avec des grandes unités? Dans ce cas-là, est-ce que la littérature ne sert pas un peu de discours scientifique pour reposer une question très forte qui est qu'est-ce que c'est que la normalité dans la société actuelle? Puisque la filiation est supposée créer quelque chose de normal, hein, dans un univers un peu moral, dans une société qui tient à sa survie, c'est comme ça que c'est présenté. Le monstre indique toujours par son écart. Qui est un écart factice, il avait toujours une norme, et puis la reproduction sexuelle aussi est supposée engendrer, perpétuer l'espèce dans une espèce de logique harmonieuse. C'est comme ça que c'est présenté. Est-ce qu'il n'y aurait pas là au centre de la réutilisation du discours scientifique par la littérature un machin qui serait une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être un normal ou non dans l'époque contemporaine?
Finalement, tu avais une question quand même. Quand on y pense. Je vais développer un peu là-dessus en disant que finalement, cette question de la normalité renvoie aussi parfois en filigrane, parfois de façon très explicite, à la question de l'éthique. Et qu'au fond, la littérature reprend souvent les débats actuellement autour du clonage et de la génétique sur la norme. Ça se produit de sorte de façon. Dans le cas du roman de Houellebecq, j'en ai souvent parlé, je l'ai écrit aussi. Moi, ça m'a toujours frappé. La réception de ce roman m'a frappé parce que, au tout début, hein, je me souviens de. Comment il s'appelle? Enfin, il y a une critique, plusieurs critiques, mais une entre autres qui a lancé un peu la guerre, qui disait que ce roman est un roman tout à fait eugéniste. Bon. Et s'appuyant notamment sur le fait que Houellebecq présenterait une race supérieure à la fin qui serait allée au-delà des humains qui eux-mêmes seraient devenus complètement taris, etc., etc. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que je me dis, mais c'est une pure projection parce que j'ai relu je ne sais pas combien de fois la finale de ce roman et il n'y a rien qui nous dit que cette fameuse société est une société idéale. Ça a l'air d'une société, mais alors d'un puritanisme, d'un ennui total. Celui qui en parle est lui-même membre de cette société, donc on peut supposer qu'il n'en dira pas de mal. Mais en fait, il n'y a pas de trace, il n'y a rien d'explicite qui nous dit que cette société est extraordinaire. Et il me semble que Houellebecq, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des réactions si contrasté à l'égard de son roman, il me semble que Houellebecq, au fond, a poussé au bout de sa logique une réflexion scientifique que les scientifiques n'osaient peut-être pas eux-mêmes amener jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller, jusqu'où ça va. On retrouve ça aussi dans un roman dont j'ai pas eu le temps de parler, là, mais celui de Zadie Smith, le premier roman de Zadie Smith, qui est un roman très amusant parce que c'est un roman qui parle du Londres actuel. Ça a été écrit au milieu des années 90. Alors, c'est des familles reconstituées avec des Juifs, des Jamaïcains, des Pakistanais, des Hindous. Il y a toutes sortes de problèmes culturels qui se posent, qui sont par moments très, très drôles. Mais à ces problèmes qui sont d'ordre culturel, sur justement la question des différences, apparaît un généticien qui travaille sur une souris transgénique, justement, et qui, lui, considère que son travail est un travail tout à fait normal. On devrait le laisser travailler, faire ce qu'il veut. Après tout, il fait de la recherche, lui, pour améliorer l'humanité. Mais c'est la question de la différence qui se pose aussi, là, ce qu'on peut faire à partir de là. Les débats, ils sont énormes. Il y a un cas spectaculaire dernièrement, c'est celui de James Watson. James Watson qui a trouvé l'ADN avec Francis Crick. Bon, Watson a écrit un livre que j'ai lu en français qui s'appelle « Gènes, génome, société », qui est extrêmement intéressant. C'est un recueil d'articles ou de conférences. Et Watson a une position assez radicale, c'est intéressant pour ça. Il ne cesse de pester dans son livre contre... le gouvernement, contre les systèmes, contre les éthiciens, justement, qui mettent des barrières au travail en biologie moléculaire et aux travaux en génétique en disant, mais écoutez, arrêtez de nous parler du milieu social, vous vous rendez pas compte de ce que la génétique pourrait faire pour soulager l'humanité, etc., etc. Bon. Et à la fin, il y a un texte que je vous recommande, ces questions-là vous intéressent, d'ailleurs, très long, qui est une conférence qu'il a donnée en Allemagne, qui est très intéressante parce que, évidemment, en Allemagne, on les comprend, les questions génétiques, c'est assez délicat. Hein? Donc là, l'éthique, c'est vraiment. Ils ont des règles extrêmement sévères. Et Watson fait un retour sur l'histoire de la génétique en passant par l'eugénisme, en cachant pas le nazisme, en disant bon, je vous comprends, mais écoutez, il n'y a pas que ça, la génétique, c'est aussi autre chose. On lit le livre et on se dit, ben oui, c'est passionnant, il rue dans les brancards, puis on pense à George Bush pour Parti républicain, puis on se dit, oui, il a bien raison, mais on se dit quand même des fois que ce qu'il dit sur laisser tomber les questions éthiques, il va quand même un peu vite. Bon, alors je lis ça, et puis il y a 2 ans, Watson devait donner une série de conférences en Angleterre, et puis les conférences ont été annulées parce que dans une entrevue à un journal anglais, il a dit « Vous savez, de toute façon, génétiquement, les Noirs, ils sont d'une intelligence inférieure aux Blancs. Hein, » Alors on se dit quand même, peut-être qu'il y a des barrières, ceux qui disent que les barrières éthiques ne sont pas nécessaires, il faudrait peut-être les lire très, très attentivement. Puis après, Watson a dit « Bon, écoutez, j'ai été mal cité. Évidemment, ça n'a aucun fondement scientifique ce que j'ai dit n'importe quoi. » C'est vrai que Watson tient souvent des discours assez iconoclastes, mais tu vois, enfin, Watson, c'est dans le milieu scientifique, dans le milieu de la génétique, de la biologie moléculaire, c'est une des figures les plus importantes au monde actuellement. Il sort un truc comme ça, je veux dire, ça vient détruire son discours sur le fait que, écoutez, laissez-nous travailler. Alors, ces débats-là, on les retrouve de toutes sortes de façons aujourd'hui. Et je pense que les écrivains les en rendent compte, les cristallisent, les reprennent de différentes façons. Alors oui, la question de la normalité, et derrière la question de la normalité, la question de l'éthique qui est là aussi, et qui se manifeste effectivement, je pense que tu as assez bien résumé là, la manière dont ça se pose, la question de l'hérédité, de la filiation, du monstre, ce que Perron dit dans le texte quand il dit... On peut pas se rendre compte à quel point des fois les vies sont brisées par un neurotransmetteur de trop ou de moins, mais c'est vrai, c'est une réalité génétique, ça. Bon, alors, qu'est-ce que c'est la norme à partir de là? Voilà.
Madame Ndiaye, vous avez une question?
Bon, j'ai remarqué, je réfléchissais un peu dans le même sens que Pierre, parce que ça m'a fait penser à beaucoup de textes, et en même temps... À monter de plus en plus loin, parce qu'on trouve tout ça justement dans la mythologie, les contes,
bien sûr.
Hein, de tout, c'est assez universel, ce genre de fantasme des naissances non naturelles. Bon, je pense en particulier récemment à un texte plutôt là où il y a une femme qui a son garçon par un pouce qui a enflé. Finalement, il y a un garçon qui sort de son pouce. Bon, il y a des tonnes d'histoires comme ça, mais finalement,
chez Rabelais, ils ne sont pas très normaux non plus, hein, les bébés.
ça revient bon, d'un côté enfin, à quelque chose de très d'universel, comme fantasme d'une naissance non naturelle et d'une sorte d'un genre de merveilleux scientifique. Il me semble que ce que vous décrivez, mm-hmm. c'est un genre de merveilleux scientifique des deux côtés, je veux dire, autant du côté de la science que de la littérature. Et à quoi ça aboutit finalement, je veux dire, est-ce que ça traduit une paranoïa de la disparition de l'espèce humaine, ou à force de vouloir garantir la perpétuité, on imagine des milliers de manières de garantir une naissance non naturelle, mais qui devient presque toujours monstrueuse finalement, sauf quand on est du côté des religions.
Je ne sais pas exactement par où prendre la question. C'est vrai qu'on pourrait... Bien sûr, on peut remonter dans l'histoire, dans les mythologies, il y en a partout, mais bon, c'est un centre en sociocritique, et c'est évident que dans mon esprit, j'essaie de voir les origines de ces questions-là parallèlement au développement des sciences aussi, dans un rapport vraiment où le texte littéraire est travaillé par leur texte également, c'est-à-dire qu'on... Oui, bien sûr, il y a les mythologies, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment... De façon claire et nette, explicite ou de façon implicite, en fait, les textes sont travaillés par une réalité scientifique, par des découvertes scientifiques, par les débats qui ont lieu autour de ces questions. Vice-versa, de Will Self, évidemment, ça ne s'appuie pas sur la science de façon très, très sérieuse. Et on pourrait, oui, le faire, le situer dans une filiation qui remonte au monstre depuis très, très longtemps. On peut très bien le faire. Mais là, j'en ai parlé très, très rapidement, mais je pense qu'il faut aussi situer ce roman dans l'ensemble de l'œuvre de Will Self, où il est toujours question, effectivement, de génétique, de biologie. C'est très, très, très fréquent. Alors, c'est vraiment dans une perspective plus globale que je le prends. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps sur YouTube, grâce à Daniel Grenier qui est ici, qui m'a fait des recherches qui m'ont été bien utiles sur Will Self, une discussion, disons, entre Will Self et un généticien américain. Et puis, on voit que Will Self, quand même, sait de quoi il parle quand c'est question de génétique, mais a toujours un discours extrêmement iconoclaste. Il disait, par exemple, mais écoutez, entre le chimpanzé et nous, il y a très, très peu de différences génétiques. Alors, pourquoi, tant qu'à faire des clones, on n'essaierait pas de créer une nouvelle espèce à mi-chemin entre le chimpanzé et l'être humain? Il me semble qu'on apprendrait énormément de choses. Le généticien n'était pas sûr. Mais c'est pour vous dire que chez Self, il y a une connaissance réelle de la pratique scientifique autour de la génétique qui transpose de façon parfois... iconoclaste, mais alors c'est un peu dans cette perspective-là. Comme je disais au début, je ne tiens pas à parler je m'intéresse pas uniquement à des textes qui démontrent une connaissance profonde de la part de l'auteur des sciences, mais ce qui m'intéresse quand même, c'est les effets de résonance entre le texte et le discours social au moment où il est écrit. Parce que si on se lance dans les êtres merveilleux, alors là, j'en finirai plus.
Y a-t-il une dernière intervention? Oui.
Dans la veine des livres scientifiques, mm-hmm. suggestion de lecture, fou littéraire, assez notoire, tant que pour les gangs peut-être, Jean-Pierre Brisset, est-ce que vous connaissez?
Oui, celui des melons. Pardon? C'est pas celui des melons? Qui disait que les melons étaient se coupaient en un certain nombre de tranches parce que ça correspondait au nombre de personnes dans une famille, non? C'est pas celui-là? Je crois que c'est celui-là.
C'est pas mais en fait, celui dont je parle, c'est celui qui apparaît dans l'anthologie de Mort Noir. Le breton. C'est lié justement à théorie de l'évolution dans la grande nouvelle mi-chemin, donc au tournant du 19e et 20e siècle, que l'homme, donc, est non pas, enfin, comme vous disiez, nous sommes non pas des chimpanzés, mais des batraciens. Donc, il tente de démontrer qu'on existe, un pseudo existe, qu'on de démontrer de façon linguistique, non seulement de façon linguistique, mais par le calembour que l'homme ne semble non pas des chimpanzés. Les débattations, les communes. C'est une lecture assez intéressante. Ça a été édité.
Alors déjà, il y a des gens qui s'est choqué parce qu'on semblait au sein, j'imaginais, avec les batraciens. Hein.
Alors, s'il n'y a pas d'objection, je propose qu'on continue la discussion autour d'un verre de vin. Je remercie M. Chassé pour la conférence. Bonne soirée.
J'ai pas été trop long.
Non, en fait, moi j'ai pas de montre.